Bienvenue dans le podcast de la Maison des Maternelles. Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage très fort d'Ali. Ali qui a préféré renoncer à ses droits sur sa fille pour lui offrir une meilleure vie auprès d'une famille aimante. Ensuite, Johanna Rosenblum, qui est psychologue, va nous donner les clés pour comprendre cette situation plus qu'extrême. On le dit, on le répète, on le rabâche dans cette émission et on remercie Elisabeth Badinter d'avoir fait émerger ce sujet. On le sait, l'instinct maternel, c'est pas automatique. Voilà, il y a certaines femmes qui ont plus besoin de temps pour créer le lien avec leur bébé. Et puis parfois, le lien ne se crée pas. Il arrive parfois qu'une mère ait le sentiment de ne pas pouvoir donner à son enfant ce dont il a besoin, parfois à cause de sa propre histoire, même souvent. C'est votre cas, Ali. Bonjour.
Bonjour.
Alors déjà, Ali, je voudrais vraiment vous remercier d'abord, d'avoir le courage d'être là aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui est compliqué, on le sait. Deux, de nous faire confiance. Vraiment, merci mille fois. Vous avez 24 ans et vous avez donc renoncé à vos droits parentaux sur votre fille il y a un an et demi. Il faut dire que vous avez évolué, grandi avec une maman que vous avez toujours craint. Elle était violente psychologiquement, violente aussi physiquement avec vous, mais aussi avec votre père.
Oui, alors elle était violente en fait avec toute la famille, parce que j'ai un petit frère et une petite sœur, donc pareil avec eux, c'était des violences psychiques, psychologiques, physiques. Et mon papa était un homme battu en fait. Donc du coup, moi j'ai toujours eu ce rôle un peu de maman, mais pour toute ma famille. Que ce soit pour ma maman, quand elle faisait ses crises un peu... Je ne suis pas psychiatre, mais ces crises psychotiques, du coup, elle en a eu. Ces crises de violence où elle s'enfermait dans des pièces avec mon papa pour l'attaquer, en fait. Je rassurais mon petit frère, ma petite sœur. J'ai toujours eu ce rôle, en fait, de protection pour eux.
Vous preniez en charge, en fait, tout le malheur de la famille.
C'est
Et
ça.
Votre entourage était au courant ou pas, les gens qui gravitaient autour de votre famille?
Alors, oui, ça s'est fait au fur et à mesure en grandissant, où j'ai commencé à essayer de parler. Mais c'était souvent des « oui, mais tu sais, c'est ma sœur, je peux rien lui dire, t'imagines, qu'est-ce qui va se passer ?»« Enfin, elle va plus me parler après. » Ou même des voisins, ils entendaient les cris, mais personne n'a jamais agi. Même une voisine, quand on était punis avec ma petite sœur sur le palier de l'immeuble en plein hiver, en culotte ou en serviette de douche, parce qu'on sortait de la douche, pendant des heures et des heures, on criait, on pleurait. Elle a déjà descendu les escaliers en... juste nous regardant, et qu'est-ce que vous avez fait encore?
Alors, à 19 ans, vous devez vous faire opérer à cause de votre endométriose. D'ailleurs, vous êtes sous pilule en continu à cause de votre maladie.
Oui.
Et là, vous découvrez quelque chose d'hallucinant.
En fait, j'ai été placée sous ménopause artificielle et pilule en continu. Donc, normalement, ce n'est pas trop possible d'avoir un petit bébé. Et pendant tout ce temps-là, j'avais déjà des nausées, des sentiments super bizarres, mais je me suis jamais dit que je pouvais être enceinte. Mais je pense qu'à ce moment-là, je faisais un déni de grossesse, en fait. Vu que j'étais sous ménopause, je me disais que ça ne m'a pas traversé l'esprit. Et c'est vrai qu'en me réveillant de l'opération, la spécialiste de l'endométriose est venue me voir pour m'annoncer cette grossesse en me disant que j'étais enceinte d'un mois et demi. Et du coup, là, c'était le choc. Et ma mère m'avait accompagnée ce jour-là, mais vu que j'étais majeure, elle avait dû sortir de la chambre. Et ensuite, quand la spécialiste est sortie, elle m'a rejoint dans la chambre et je lui ai annoncé. Donc elle a explosé de joie en disant « c'est super, je vais être grand-mère ». Elle a envoyé des messages à toute la famille. Et moi, je venais de demander à la spécialiste comment on avorte en fait. Et j'ai reçu des messages de félicitations sans que j'aie pu en placer une en lui disant «
Vous étiez plus avec le papa à ce moment-là ?
C'est ça.
Est-ce que votre maman, elle vous a soutenue quand même pendant votre grossesse,
non,
après l'annonce?
Pas du tout. Elle m'avait promis justement que si je gardais ce bébé, on allait enfin recevoir une vraie relation mère-fille, qu'on allait être proches, qu'elle me pardonnait de tout ce que je lui ai fait subir pendant que j'étais petite. Et en fait, au final...
C'est elle qui vous dit qu'elle vous pardonne?
Oui, c'est ça.
D'accord.
En fait... tout ce qu'elle fait subir aux autres en général, que ce soit dans l'amitié, dans l'amour, avec ses enfants, tout ce qu'elle fait, elle reproche.
Donc on comprend que votre grossesse a loin d'avoir été loin d'être sereine.
Oui.
L'accouchement, comment ça s'est passé?
L'accouchement en soi s'est bien passé. Après, c'est plus... En fait, ma mère était là ce jour-là parce qu'on ne se parlait plus. Mais je lui ai quand même envoyé un message en me disant « Bon, c'est ma mère, je suis seule, peut-être qu'elle va vouloir venir. » Elle est venue et c'est elle qui a coupé le cordon. Et ensuite, quand Nina est née, elle est partie avec sage-femme pour la faire un peu nettoyer avant de me la mettre sur moi. Et là, j'avais l'impression que ça durait des heures interminables et qu'ils étaient à 15 km de moi. Donc bah après, quand ils me l'ont ramené, j'ai rien ressenti. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est son bébé à elle, c'est pas le mien.
C'est-à-dire que oui, vous n'avez pas réussi. En fait, c'est comme si elle vous avait volé ce moment-là.
C'est ça.
Les premiers mois avec votre fille, alors, parce que à la limite, bon, en dehors évidemment de tout l'aspect symbolique et de toute votre histoire qui a été, on comprend, tellement difficile, ça arrive souvent qu'une maman, on lui mette son bébé et tout à coup, il y a un moment où il ne se passe pas grand-chose.
Oui, c'est ça.
Mais après, ça vient.
Oui. Bah, on m'a parlé de dépression postpartum ou de dépression tout court, mais sauf que moi, c'est jamais venu, en fait. Après, je faisais semblant. Sans m'en rendre compte, hein. Je faisais tout ce qu'il fallait.
Oui, vous en occupiez quand même.
C'est ça, je faisais même du cododo avec elle, je regardais tout ce qu'il fallait pour être la meilleure mère possible, pour créer un lien avec mon bébé, pour être disponible dès qu'elle se réveille. Franchement, tout ça, je le faisais plus ou moins naturellement, en fait. Mmh. Et c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à me rendre compte que ça devenait de plus en plus compliqué et
qu'est-ce que vous vous disiez dans votre tête? Est-ce que vous vous disiez, je veux pas recréer la même chose avec ma fille que ce que j'ai vécu avec ma mère?
Ça a toujours été comme ça.
Donc vous n'auriez jamais levé la main sur elle?
Non, jamais. Je me suis toujours dit que ça, c'était hors de question, que voilà, elle est là, même sans que je comprenne que je n'étais pas faite pour ce rôle. Mais je me suis toujours dit que c'était ma hantise absolue de reproduire ce que moi-même j'ai vécu.
Et ça vous a fait sombrer, tout ça?
Oui.
Le fait de ne pas arriver à créer le lien,
c'est ça.
Vous êtes tombée en dépression. Alors, trois mois après la naissance de Nina, vous allez rencontrer Alex, qui est votre compagnon actuel. On peut dire vraiment qu'Alex, c'est un ange, quoi.
C'est
il vous a vraiment soutenu, voilà. Oui. Est-ce qu'il vous a aidé à créer le lien avec votre fille? Est-ce que vous, déjà, vous lui avez confié ça?
Oui.
C'est difficile de le dire.
C'est ça. Alors, c'est un garçon exceptionnel. Je crois que ce soit Nina ou moi, on serait peut-être pas en vie aujourd'hui. Ça peut paraître des mots forts et tristes, mais c'est réel, il nous a sauvés. C'est lui qui m'a tout appris alors qu'il n'a même pas d'enfant. Il m'a appris à lui lire des histoires, alors que moi, je me disais, mais c'est un bébé, elle comprend rien, pourquoi lui lire une histoire? C'est lui qui me disait, tu peux lui acheter des balles sensorielles, les veilleuses, ça peut la rassurer la nuit. Toutes les petites choses comme ça, ou même question d'amour, elle a besoin de peau à peau, ce genre de choses. Il m'a tout appris.
Quel a été le déclic, en fait, Ali, pour que vous vous disiez, je ne peux pas m'occuper d'elle?
C'est le jour où j'ai fait une grosse tentative de suicide, qui pour moi, au départ, était un appel à l'aide, mais je me suis dit, au vu de ce que j'avais avalé, en fait, on ne prend pas le risque. J'avais laissé une lettre d'explication. Nina dormait dans sa chambre et j'ai prévenu mon papa, Alex, du coup, qui n'était pas avec moi à ce moment-là, de ce que je faisais pour, si jamais il se passe quelque chose, qu'il sache que ma fille dort à côté. Et là, j'ai eu un blackout, en fait, total. Je me suis retrouvée à l'hôpital en réanimation. Et c'est quand ma mère est venue me voir en réanimation, de base, elle n'avait pas le droit de rentrer, qu'elle m'a parlé à l'oreille en me disant « Il faut vraiment que tu te fasses aider, ça ne va pas du tout, t'inquiète pas, je vais te prendre Nina, je vais m'en occuper. » Et là, ça a fait mes yeux, en fait, se sont ouverts entièrement. Et là, je me suis dit, waouh, c'est impossible.
Et vous êtes dit, en fait, il faut que je la confie, ma fille, pour qu'elle soit heureuse. Donc d'abord, elle a été dans une famille d'accueil, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle est partie?
Avant qu'elle parte, de toute façon, j'ai essayé de faire en sorte qu'elle ne ressente pas, en fait, mon angoisse, parce que je le savais déjà depuis une semaine. Et le jour où ils l'ont récupérée, je faisais comme si de rien n'était. J'ai réussi quand même à lui parler, à lui dire, tu sais, Nina, tu vas partir, on va venir te chercher, mais t'inquiète pas, ça ne va pas durer. Enfin, c'est le temps qu'on se retrouve, que moi j'aille mieux, que toi tu te sentes en sécurité et bien. C'est Alex qui m'a poussée, bien sûr, à lui dire tout ça. Et elle est partie, et là, la porte s'est fermée, et puis c'était les chutes du Niagara. J'étais pas bien, j'ai culpabilisé, je me suis dit que j'étais affreuse de faire ça, en fait, que je l'avais probablement détruite, Enfin, je ne savais pas comment elle se sentait à ce moment-là, jusqu'à ce que la famille d'accueil m'envoie un message pour me dire « La route s'est super bien passée, Nina a mangé. »
Vous avez été rassurée.
Oui.
Tout ça, ça a duré 2 mois, à cette période-là. Et le 10 juin 2022, vous avez pris la décision de renoncer carrément à vos droits parentaux.
C'est ça.
Est-ce que vous avez regretté cette décision, Ali ?
Pas du tout. Alors, je l'ai pris avec beaucoup de recul. J'ai vraiment pris du temps à y réfléchir parce que Nina, je ne la voyais déjà plus depuis un bon moment. Parce que c'est vrai que je l'ai fait placer assez 1 an. Et là, maintenant, elle va avoir 4 ans. Donc, ça peut paraître énorme, mais j'ai arrêté de la voir depuis déjà un bon moment. C'est juste que pour signer ce papier définitif, je voulais vraiment être certaine. Et puis, c'est au fur et à mesure, quand j'ai passé les visites à domicile, que je voyais que Nina était de plus en plus... Enfin, qu'elle n'était pas super heureuse avec moi et que dès qu'elle voyait sa famille d'accueil, elle était une autre petite fille, que je me suis dit que c'était plus égoïste de ma part et que de toute façon, je savais qu'il y avait rien, que je ne pouvais pas faire plus que ce que j'avais fait et que pour la protéger et pour me protéger, finalement, il fallait que je le signe.
Elle vous manque de temps en temps ?
Oui, j'y pense tous les jours. Il n'y a pas un jour où j'y pense pas. C'est sûr qu'elle me manque, mais c'est... J'aurais jamais pu lui apporter tout ce que sa famille actuelle lui apporte, en fait.
Bonjour Johanna Rosenblum,
bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue clinicienne, auteur entre autres du livre Hypersensibilité, comment en faire un atout. Vous reviendrez pour nous parler de ça parce que ça nous intéresse énormément. C'est chez Alpen. Merci de venir répondre à toutes nos questions. Quelles peuvent être les conséquences sur un enfant? Parce qu'évidemment on pense à la petite Nina quand elle va savoir que sa maman a renoncé à ses droits parentaux.
C'est difficile. Non,
pardon, je veux vraiment, parce qu'il peut y avoir évidemment des jugements sur cet acte-là, mais moi, tout ce que je vois, c'est un acte d'amour, quoi. C'est presque un sacrifice en se disant, bon, elle sera plus heureuse sans moi.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une énorme souffrance pour la maman, faut pas l'oublier. Évidemment, il y aura des conséquences sur l'enfant. De là à prévoir quelles seront ces conséquences, c'est difficile parce qu'il y a ce qui dépend de l'enfant, sa personnalité, sa capacité à gérer ses émotions, la connaissance qu'il a de son propre récit. Et puis, il y a tout ce que l'enfant ne maîtrise pas, c'est-à-dire son enfance, l'éducation qu'il a reçue, l'environnement dans lequel il a grandi, s'il était plus ou moins dysfonctionnel, plus ou moins maltraitant. Tout ça ne dépend pas de l'enfant et sera à prendre en considération par les psychologues ou les assistants sociaux qui seront là pour entourer l'enfant et l'aider dans sa croissance à vivre avec son histoire.
Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'Ali a laissé une lettre aussi à sa fille pour bien lui expliquer. Et on peut dire, parce qu'on peut se dire, tiens, ben voilà, en fait, c'est pas une maman. Si, c'est quand même une décision de maman, pour le coup. Hein.
C'est une décision de... Oui, je suis d'accord avec vous. C'est vraiment une décision de maman. C'est une décision de maman qui sait par avance qu'elle n'arrivera pas à aimer suffisamment comme une mère son enfant.
Voilà, c'est ça.
Et en cela, c'est un énorme acte de courage de pouvoir déjà le réaliser, ensuite le verbaliser et ensuite mettre en place les dispositions qui permettront de protéger cet enfant d'un amour qui ne serait pas suffisant ou qui ne serait pas le bon pour lui.
C'est ça.
Beaucoup de questions, donc, comme le disait Benjamin. On va commencer par celle de Natacha, qui vous demande s'il y a une différence entre regretter d'être mère et regretter d'avoir des enfants.
On peut simplifier en le disant comme ça. Il y a une étude qui a été publiée en 2015 par une sociologue israélienne qui s'appelle Orna Donat et qui explique vraiment dans son étude, qui est faite de témoignages de femmes qui ont renoncé à leur droit parental, qui explique bien qu'en fait, toutes ces femmes, elles aiment profondément leur enfant. Mais elles ne les aiment pas comme une maman. Elles les aiment comme une amie ou comme un proche. Donc elles sentent que ce lien, cet amour qui n'est pas filial, n'est pas suffisant pour faire face à toutes les difficultés qu'on a à rencontrer quand on devient maman. La fatigue, les obligations, le fait de devoir renoncer à une partie de son temps pour se dévouer à son enfant, tout ça n'est pas suffisant pour les épanouir. C'est une frustration qui crée parfois des grandes souffrances, comme des dépressions ou des dépressions du postpartum. Il n'est pas rare de voir chez ces mamans-là des souffrances qui vont jusqu'à des idées noires, des pensées suicidaires.
Et donc ça, c'est regretter d'être mère. Regretter d'avoir des enfants, c'est différent ?
Elles vous diront toutes qu'elles aiment. Elles aiment en somme leur enfant. La question n'est pas là. La question n'est pas de l'ordre du désamour. C'est vraiment plutôt de l'ordre de...
Et de l'impossibilité, de l'empêchement total.
Voilà, de la qualité de l'amour. De la qualité de l'amour, qui n'est pas un amour maternel.
Louise vous demande, est-il plus difficile d'avouer son incapacité à être mère aujourd'hui ?
Je pense que c'est encore toujours très tabou, très difficile à entendre. Aujourd'hui, on a l'IVG, on a la contraception, donc les gens ne comprennent pas qu'on puisse tomber enceinte, mener à terme une grossesse, accoucher d'un enfant pour après y renoncer. En réalité, les études qu'on a, qui sont très, très restreintes, hein, il y a très peu d'études, tout simplement parce qu'on parle très peu de ce sujet, montrent que c'est souvent après la grossesse que l'on découvre qu'on est incapable ou qu'on a des difficultés à devenir maman. Parfois parce qu'il y a une dépression du postpartum, parfois parce qu'il y a ce constat terrible qu'on n'arrive pas à établir de lien, le lien qu'on imaginait, qu'on fantasmait jusqu'au dernier jour de la grossesse. C'est comme un royaume fantasmé qui s'effondre et on réalise d'un seul coup que le fait de procréer ne suffit pas pour enchanter.
Oui. Marina, elle vous dit « Abandonner son enfant est un geste tellement terrible, comment être sûre que le lien ne se créera pas plus tard et trouver la force de confier son enfant à quelqu'un d'autre ?»
Comment être sûre, c'est toute la question. C'est pour ça que la décision ne se prend jamais du jour au lendemain. Il y a souvent un suivi, les enfants sont souvent placés dans des familles qui permettent à la maman de continuer de voir son enfant une fois, deux fois par semaine. Et puis ensuite, en fonction de l'évolution du lien qu'il y aura entre la maman et l'enfant placé, on peut imaginer que la maman veuille récupérer son enfant ou au contraire réalise qu'elle ne réussira pas à être maman et donc renoncer définitivement à son droit parental.
Vous, en tant que psy, vous évaluez la qualité de ce lien à ce moment-là ou pas ?
En général, les nouvelles mamans qui viennent me voir, elles viennent pas me voir pour une forme d'expertise. Elles viennent pour parler de leur souffrance. Il y a beaucoup, beaucoup de souffrance chez ces mamans-là. C'est une immense désillusion de se rendre compte qu'on a désiré d'être mère. Alors, parfois, il y a des cas de déni de grossesse. Hein. Oui, c'est-à-dire des femmes qui vraiment découvrent qu'elles vont être maman le jour de la naissance ou quelques jours avant. Et donc là, il y a vraiment un problème de création de lien qui est lié à une temporalité qui n'a pas été suffisante. Mais sinon, c'est toujours une énorme souffrance pour la maman, un énorme traumatisme de se rendre compte qu'une fois qu'elle a son bébé dans les bras, la magie n'opère pas.
Et j'ai l'impression qu'il y a plein de pères qui passent par là, mais qui se posent moins de questions et qui sont moins durement jugés par la société. Ce serait l'occasion de faire une émission rien que là-dessus. Magali vous demande, que se passe-t-il si une femme qui n'arrivait pas à être mère à un moment donné regrette d'avoir abandonné son enfant ? Qu'est-ce qu'elle peut faire ?
J'imagine que quand on va jusqu'au retrait des droits parentaux, toutes ces questions ont été suffisamment évaluées avec la maman. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Écrire une lettre
Donner la possibilité à l'enfant plus tard de contacter la maman, ça c'est fait ?
Oui, donner des informations, travailler de son côté pour essayer de se rappeler la démarche qui a été la nôtre au moment où on n'a pas pu être maman et au moment où on a jugé bon de confier...
Une fois qu'on a abandonné ses droits parentaux.
Il me semble qu'une fois que c'est fait, pour le bien-être de l'enfant, il n'est pas possible de revenir en arrière, surtout quand c'est allé jusqu'à l'adoption.
Merci à Johanna Rosenblum et merci à Ali pour son témoignage si courageux. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager.